Vous écoutez, on lit pour vous.
Faut-il être parrainé pour progresser au travail? Un texte d'Alain Gosselin, paru le 5 août 2025 dans la presse. Les groupes sous-représentés, dont les femmes, ont historiquement été désavantagés dans l'accès aux postes de direction. Une des principales raisons avancées pour expliquer ce plafond de verre est qu'elles bénéficient moins que les hommes d'un parrain qui leur ouvre le chemin. Comment briser ce cercle vicieux? Quels sont vos sentiments à l'idée d'avoir un parrain au travail? Pour plusieurs, cela évoque une injustice sous la forme d'un favoritisme qui se perpétue dans le temps. C'est ainsi que se crée le plafond de verre. Certains accèdent aux promotions grâce à leurs relations, pas nécessairement sur la base de leurs mérites. Mais, soyons honnêtes, personne ne gravit les échelons seul. Sans appui, les talents issus de groupes sous-représentés ont peu de chances de franchir les barrières invisibles qui freinent l'accès aux postes de direction. Si vous ne voulez pas rester un talent caché, il vous faut envisager le parrainage non pas comme un passe-droit, mais comme une stratégie légitime. Trouvez une personne crédible, prête à miser sur vous et à parler de vous dans les bons cercles, peut certainement faciliter la progression de votre carrière. Le parrainage demeure mal compris. Il est souvent confondu avec le mentorat, une pratique de développement largement acceptée. On a longtemps cru que les hommes accédaient à plus de promotions que leurs collègues féminines parce qu'ils étaient davantage mentorés. Or, les données montrent que les femmes font autant appel au mentorat que les hommes, contrairement aux idées reçues. Le problème n'est pas l'accès, mais la nature du soutien procuré. En y regardant de plus près, on constate que les hommes reçoivent plus souvent un soutien actif de la part de leurs mentors pour les aider à migrer vers la prochaine étape. Quant aux femmes, elles se disent bien accompagnées sur le plan du développement, mais déplorent souvent l'absence d'un appui concret pour franchir les étapes clés de l'avancement. En somme, elles sont bien mentorées, mais sous-parrainées. C'est aussi une réalité qui touche les personnes racisées et d'autres groupes sous-représentés qui éprouvent également des difficultés d'accès au rôle de leadership. Le parrain, bien plus qu'un mentor. Le mentorat et le parrainage sont deux rôles à la fois distincts et complémentaires. Un mentor parle avec vous, un parrain parle de vous. La nuance est de taille. Ils peuvent être exercés par la même personne, mais ce n'est pas souvent le cas. Le mentor est un modèle qui peut se situer à tous les niveaux de l'organisation, pas seulement parmi les cadres supérieurs. Son rôle consiste à accompagner le développement de ceux qui souhaitent progresser dans leur carrière. Il fait partager son expérience, écoute, conseille et guide dans une relation privée basée sur la confiance mutuelle. Parfois, le mentor peut s'aventurer plus loin en divulguant des informations privilégiées sur les occasions d'avancement et les façons d'y accéder. Pour sa part, le parrain joue un rôle plus stratégique. Il facilite et accélère la progression de carrière. Généralement plus haut dans la hiérarchie, il a l'influence nécessaire pour ouvrir les portes des cercles décisionnels. Il va encore plus loin que le mentor en s'engageant personnellement et publiquement à soutenir l'avancement d'un protégé. Il peut, par exemple, le recommander pour diriger un projet d'envergure, l'inviter à des rencontres stratégiques ou l'introduire dans des réseaux influents. Dans ce cas, la relation dépasse le cadre privé du mentorat. elle devient plus visible et engageante, donc plus risquée, puisque la crédibilité et la réputation du parrain sont mises en jeu. Cela explique pourquoi le parrainage est plus rare et sélectif. Formaliser le parrainage. Sans encadrement, le parrainage informel reste vulnérable au biais de similarités qui favorisent les affinités personnelles au détriment du mérite et de l'équité. Les recherches montrent que plus de 70% des parrains choisissent des protégés qui leur ressemblent, même genre, mêmes origines. Ce réflexe, souvent inconscient, perpétue les inégalités d'accès aux postes de direction. Il devient donc essentiel de structurer le parrainage pour en faire un levier à la fois crédible, équitable et efficace pour fissurer les plafonds de verre. En conséquence, plusieurs organisations intègrent une discussion sur le parrainage à leur programme de mentorat. Cela aide protégés et parrains à en comprendre les apports et les limites. Mais on ne peut miser uniquement sur la bonne volonté des mentors pour accepter spontanément ce rôle plus risqué. Il est souvent plus efficace d'identifier des parrains influents, prêts à s'engager pleinement et de manière intentionnelle, principalement auprès de talents issus de groupes sous-représentés. Bien sûr, il faut aussi les rendre responsables quant à cet engagement. Cela dit, la majorité des gens n'ont pas accès à un programme structuré. Ils doivent donc tracer leur propre voie, repérer un mentor reconnu pour son engagement envers la relève, commencer une relation structurée en amorçant la conversation et en fixant l'ordre du jour des discussions et, avec le temps et la confiance, faire évoluer ce lien vers un parrainage actif. Il serait contre-productif de mettre de la pression pour obtenir une promotion. Ce serait une erreur stratégique. Un bon protégé sait gérer ses attentes, respecter le positionnement de son parrain et contribuer à la relation, notamment en valorisant ses qualités de développeur de talent. C'était « Faut-il être parrainé pour progresser au travail ?» un texte d'Alain Gosselin, paru le 5 août 2025 dans la presse.
Refuser un locataire à cause de son âge est illégal, rappelle un tribunal. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 29 juin 2025 dans Le Devoir. Il n'est pas légal pour un propriétaire d'immeuble de choisir ses locataires selon leur âge, a réitéré récemment le tribunal des droits de la personne dans une décision. La portée concrète de cette protection dans le marché locatif peut être difficile à cerner pour certains. Dans une décision rendue au début de 2025, la juge Sophie Lapierre est claire. Un propriétaire ne peut fonder le choix de ses locataires sur un motif discriminatoire basé sur des préjugés ou des stéréotypes. Puisque l'âge, tout comme le sexe et l'origine ethnique, est un motif de discrimination interdit par la Charte des droits et libertés, un propriétaire ne peut pas établir des critères de préférence basés sur ce facteur. La Charte garantit à toute personne l'accès à un logement sans avoir à subir un traitement différent fondé sur certaines caractéristiques personnelles protégées. Justement, dans le cas jugé par Sophie Lapierre, la propriétaire avait découragé un potentiel locataire de louer un appartement dans un immeuble occupé par des personnes âgées ou retraitées. Elle ne voulait pas devoir gérer des jeunes qui font la fête, ce qui pouvait amener des chicanes, est-il écrit dans la décision. Le message était clair. « Cet immeuble n'est pas pour les jeunes », résume la juge. Ce type de commentaire, même exprimé de manière polie ou indirecte, peut être considéré comme discriminatoire. La propriétaire a été forcée de verser 5 300 $ en dommages moraux, matériels et punitifs. Le tribunal a jugé que ces propos constituaient un refus fondé uniquement sur l'âge du demandeur, ce qui allait à l'encontre des protections offertes par la Charte. En plus de la réparation financière, cette décision rappelle que les locataires ne peuvent invoquer de simples préférences personnelles pour justifier leur choix. Selon Éducaloi, même si les propriétaires sont techniquement libres de choisir leurs locataires, ils ne peuvent pas refuser de signer un bail pour des motifs discriminatoires. En indiquant dans sa publication qu'elle préférait des personnes plus âgées et en demandant l'âge du potentiel locataire lors d'un entretien téléphonique, la propriétaire a fait preuve de discrimination. La loi interdit aussi d'exclure un candidat sous prétexte qu'il serait trop jeune pour convenir au voisinage ou encore qu'il présente un risque sans fondement objectif. Pas toujours rapporté. Si dans cette situation le jeune homme de 32 ans a choisi de porter plainte, ce n'est pas toujours le cas. Selon Éducaloi, la discrimination est plus difficile à détecter, écrit l'organisme. Au lieu d'indiquer au locataire potentiel pourquoi le logement ne lui est pas loué, un propriétaire peut affirmer que le logement est déjà loué, alors qu'il continue de l'afficher comme un logement libre, souligne l'organisme. Cette opacité rend les refus difficiles à documenter. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse accepte les plaintes même en l'absence de preuves directes. Mais ces dossiers exigent souvent que la victime fournisse des détails concrets, comme des échanges écrits ou des témoignages. Or, rares sont les locataires qui prennent le temps de consigner les refus, surtout lorsqu'ils sont en situation d'urgence ou de stress lié au logement. Le seul facteur qui devrait être pris en compte, autre que les considérations logistiques, c'est la capacité du locataire à payer le logement. L'âge, la situation familiale ou l'origine ne devraient en aucun cas interférer dans cette évaluation. Un propriétaire ne peut non plus refuser la location d'un logement pour le seul motif qu'une personne a un ou plusieurs enfants, à moins que son refus ne soit justifié par les dimensions du logement, explique l'organisme. C'était « Refuser un locataire à cause de son âge est illégal », rappelle un tribunal, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 29 juin 2025 dans Le Devoir.
Le YouTuber américain Damon Dominic crée du contenu depuis maintenant 10 ans. Une entrevue réalisée par Philippe Granger parue le 23 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Si on l'a d'abord connu pour ses vidéos de voyage et d'enseignement de langue avec son ancienne collègue Joe Franco, il est désormais connu pour ses vidéos en solo, où l'on retrouve encore son amour pour les voyages et les langues, plus particulièrement le français, mais aussi du contenu plus introspectif, voire philosophique. Mais celui qui habite désormais à Paris ne se limite pas simplement aux vidéos et multiplie les projets, dont des infolettres, des ateliers et des cours de français, pour s'assurer qu'il ne s'ennuie jamais. Fugue l'a rencontré à Paris. Pourquoi sens-tu le besoin de faire autre chose que des vidéos? YouTube, ce n'est pas suffisant? Lorsque tu fais du YouTube, ton travail est tellement virtuel. Je suis seul. Je filme une vidéo. Je la monte moi-même et je la publie. Et oui, techniquement, les gens la voient, mais je suis toujours dans mon appartement. C'est pourquoi j'ai commencé à réaliser tous ces autres projets. Par exemple, l'atelier Workshop. C'est cool. Je peux gagner de l'argent en le faisant, et c'est épanouissant. Pour que j'aie envie d'entrer en contact avec les gens et de rencontrer de vraies personnes, il faut vraiment que je développe d'autres aspects de ma carrière. Aussi, la vie n'est qu'un test à la fin de la journée. On ne fait que tester les choses. Je teste tout pour voir ce que j'aime faire. Au fil des années, tes vidéos sont devenues plus longues et elles fonctionnent tout autant. Pourquoi? Dans le monde des médias sociaux, tout le monde et sa mère vous disent de poster des reels, des TikTok. Je n'aime pas consommer du contenu comme ça. C'est donc un risque de ne pas publier grand-chose sur Instagram et d'aller à l'autre extrême en faisant une vidéo de 40 minutes où je ne fais que parler. Et ces vidéos semblent toujours être les meilleures, pour une raison ou une autre. Ce sont celles où je fais le moins d'efforts, et c'est toujours frustrant. Rire. Il faut aimer ce que l'on fait. Si je n'aime pas faire des vidéos courtes, mais que je le fais, je me piège encore plus, parce que si les vidéos courtes deviennent populaires, je dois continuer à les faire. As-tu déjà été inquiet que les vidéos plus personnelles que tu fais affectent ta vie amoureuse ou effraient de potentiels partenaires? Il y a eu un moment sur ma chaîne où je faisais une série intitulée « Dating with Damon », où je parlais de quelques rendez-vous différents que j'avais eus avec des hommes internationaux. J'ai des histoires encore plus intéressantes maintenant, mais j'ai arrêté de le faire parce que je ne voulais pas que les gens aient l'impression que j'allais juste à des rendez-vous pour une histoire que j'allais raconter. Mais en même temps, c'est intéressant. C'est un exercice d'équilibre. Quoi que je dise dans une vidéo à propos de quelque chose qui se passe dans ma vie et qui pourrait impliquer d'autres personnes, elles n'ont pas de plateforme pour se défendre. Je ne dis pas de mal de qui que ce soit, mais tout de même. Je peux publier toutes mes pensées, mais eux n'ont pas vraiment la possibilité de répliquer. Tu fais moins de leçons de langue sur ta chaîne. Pourquoi? Encore une fois, il faut faire attention au contenu que l'on crée, car on s'enfonce dans un certain trou. Il faut être stratégique dans le choix des vidéos que l'on fait. Je pense que ce qui est bien avec ces vidéos sur les pensées, la philosophie, l'amour, les médias sociaux, c'est qu'on n'est pas vraiment enfermé dans un cadre. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'essais vidéo. L'Internet a connu différentes époques, et à l'époque, j'avais l'habitude de faire ces leçons parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, on peut les trouver beaucoup plus rapidement. Je ne pense pas que les gens regardent encore autant ce genre de vidéos. Je pense que les choses vont changer encore plus avec l'IA. C'est pourquoi je pense qu'il est intelligent pour moi, et pour tout le monde, de pivoter et d'aller vers ces vidéos plus longues, plus intéressantes et plus humaines. Tu es un passionné de voyage. Tu n'as jamais été inquiet d'être homosexuel dans des pays moins ouverts? Je n'ai pas peur. Peut-être que je devrais avoir plus peur. J'ai l'impression que le monde me dit « Damon, tu dois avoir plus peur, tu dois faire attention ». Mais, heureusement, je n'ai pas eu d'expérience folle qui me ferait craindre le monde, et je pense qu'il est important de le dire. Bien sûr, on peut peut-être invoquer les privilèges, mais en fin de compte, il est important de dire que j'ai voyagé dans le monde entier et dans des pays où les droits des LGBT n'existaient pas, et que je me suis senti très bien et que personne ne s'en est soucié. Parfois, il y a ce que dit le gouvernement et puis il y a ce qui intéresse les gens. La plupart du temps, ils s'en fichent. Ils veulent juste que vous soyez une personne sympathique. C'est ce que j'ai toujours ressenti. Le fait que je sois gay n'est pas une raison pour ne pas aller dans un pays. Je pense que c'est en fait une raison d'aller dans un pays, pour montrer aux gens qui sont là et qui sont gays qu'ils peuvent se sentir vus, ou aussi pour montrer aux gens que je ne cherche pas leur approbation ou leur désapprobation, que je vis simplement ma vie, que je suis heureux et que je passe du bon temps. Je pense que c'est littéralement ce qui peut changer l'opinion des gens. Tout le monde se fait une idée, jusqu'à ce qu'il rencontre la bonne personne. Il faut donc être cette personne. Parcourez le monde et changez l'opinion des gens, simplement en étant vous-même. Tu as été quelquefois à Montréal. As-tu des lieux de prédilection dans la métropole? J'aime qu'à Montréal, on trouve des terrains de volley-ball partout, comme à côté du Mont-Royal. c'est random. Il y a le PY1 qui n'existe plus. Je me suis tellement amusé là-bas. J'ai été au stock, c'est toujours amusant. Et l'orange julep, j'adore. La nourriture est horrible, mais l'ambiance est super. J'y ai tourné une vidéo à l'époque. Il y a aussi le belvédère Kondiaronk, faire du vélo au bord du canal Lachine, Habitat 67, la friperie Eva B. Ce ne sont que quelques endroits dont je me souviens. Il y a Rachel Berry, où je n'arrêtais pas d'aller. J'ai l'impression que Montréal est une grande ville de petites villes. C'est ce qui est vraiment cool, parce qu'il y a beaucoup de friperies ou de magasins locaux. On a l'impression d'être dans un film du début des années 2000. Il y a encore un côté punk ou rock. C'était le YouTuber américain Damon Dominic crée du contenu depuis maintenant 10 ans. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 23 juillet 2025 dans le magazine Fugue.
Moins d'attente grâce aux IRM de nuit. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 août 2025 dans la presse. Il est minuit. Zazia Guitoun presse le pas dans le corridor de l'hôpital Notre-Dame. Elle a rendez-vous pour une imagerie par résonance magnétique, IRM. Oui, oui, une IRM non urgente en pleine nuit. « Moi aussi, je me demande ce que je fais ici », dit-elle en riant. La jeune femme de 27 ans éprouve des problèmes avec ses oreilles. Elle entend des bruits semblables à des acouphènes. Une IRM lui a été prescrite en octobre. Ils m'ont appelé pour me demander si j'étais disponible la nuit. J'ai demandé s'il y avait d'autres plages horaires, il n'y en avait pas. Comme elle ne voulait pas attendre plus longtemps pour un rendez-vous, elle a accepté de passer une IRM nocturne à la fin juin. Même si elle travaillait le lendemain et qu'elle était dans des boîtes de déménagement. « C'est une fois dans toute l'année, on s'accommode », dit Jazia Guitoun, visiblement fatiguée de sa longue journée. L'hôpital Notre-Dame offre depuis près de 5 ans des IRM la nuit. Au cours de la dernière année, plus de 3 800 examens ont été réalisés entre 23h et 7h, du lundi au vendredi et une fin de semaine sur deux. C'est sûr que la nuit fait une grande différence pour la réduction de notre liste d'attente, affirme le chef du service de l'imagerie médicale, Martin Bessette, présent lors du passage de la presse. L'hôpital, qui possède 2 appareils d'IRM, affirme procéder à 24 examens de plus chaque jour grâce au quart de nuit. Au 2 juillet 2025, 5 513 personnes étaient en attente d'un tel test. Selon Notre-Dame, le délai moyen pour une IRM de jour et de soir est de 4 à 6 mois. Il peut être 1 à 2 semaines pour un examen la nuit, une plage horaire moins populaire, précise-t-il. 2 jours d'attente. Patrick Bélanger n'a pas hésité à accepter une IRM nocturne, qui n'est pas pire selon lui qu'un vol d'avion au petit matin. Coup de chance, l'homme de 56 ans, qui souffre de douleurs au dos, n'a patienté que 2 jours avant d'obtenir un rendez-vous à 23 heures. « C'est des heures atypiques, mais très plaisantes », dit le résident de Sainte-Julie accompagné de sa conjointe. « C'est rapide, il n'y a pas de trafic. » Pour certains patients, il s'agit d'un stress de moins, selon Martin Bessette. Les patients, continue-t-il, savent que c'est moins achalandé sur les routes à l'intérieur aussi de l'hôpital. Le centre hospitalier est calme la nuit. La presse n'a croisé que quelques personnes dans les corridors. C'est sûr que pendant la nuit, quelquefois, des patients se perdent et tu dois aller les chercher, remarque la technologue en imagerie médicale Simona Turcutte. Les patients égarés ne peuvent compter sur l'aide de bénévoles comme durant le jour, mais un agent de sécurité peut les diriger vers la salle d'IRM, indique-t-elle. Une fois sur place, les patients s'entraident entre eux, a constaté la presse. Ils s'expliquent les consignes à suivre, écrites sur une affiche avant l'examen. Il faut revêtir une jaquette d'hôpital avant de s'allonger dans le tube de l'IRM. Simona Turcutte estime que, somme toute, les patients sont très contents de leur expérience. Il y en a qui travaillent pendant la journée et n'ont pas le temps d'aller à un rendez-vous, souligne-t-elle, en ayant un œil sur un écran relié à une caméra de surveillance où elle voit arriver ses patients. Une soupape. Une minorité d'hôpitaux ont un programme d'IRM de nuit, selon l'Association des radiologistes du Québec. Son président, le Dr Grégoire Bernèche, salue l'initiative de Notre-Dame visant à réduire les listes d'attente. « Il faut que les plateaux techniques soient utilisés à leur pleine capacité », dit-il. Selon lui, les IRM nocturnes doivent être utilisés comme une soupape lorsque les listes d'attente s'allongent, pas comme une solution nécessairement permanente. Ce n'est pas l'idéal non plus que tout le monde se lève la nuit, les technologues, les patients, pense-t-il. Chez Santé Québec, on indique que le nombre d'IRM a augmenté de 6,1% dans la dernière année grâce à l'ouverture de quarts de soir, de nuit et de fin de semaine, ainsi que d'ententes avec le privé. Annuellement, plus de 490 400 examens d'IRM sont réalisés, écrit la Société d'État dans un courriel. Cela représente trois fois le nombre de personnes en attente. Miser sur l'IA. L'hôpital Notre-Dame, quant à lui, diminue sa liste d'attente d'environ 105 patients par semaine. Il reçoit quelque 225 nouvelles requêtes et réalise 330 examens, explique Martin Bessette. En plus des quarts de nuit, l'hôpital a implanté un outil d'intelligence artificielle, IA, qui traite les requêtes d'IRM transmises par télécopieur. Oui, par télécopieur. Les agents administratifs n'ont plus à faire la saisie de données. On économise 6 heures par jour pendant lesquelles nos agents sont en mesure de faire des appels pour donner des rendez-vous, estime Martin Bessette. Notre-Dame souhaite maintenant mettre en place un système d'IA qui améliorerait la netteté des images et permettrait de réduire de 30 à 40% les temps d'examen, selon Martin Bessette. Davantage d'IRM pourrait donc être réalisé. À l'heure actuelle, un examen dure entre 15 et 45 minutes. On est à la recherche de fonds pour être en mesure de financer le projet, dit Martin Bessette. Coût de l'initiative? Environ 243 000 $, prévoit-il, pour les deux IRM. C'était « Moins d'attente grâce aux IRM de nuit », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 août 2025 dans la presse.